Pour l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi à Radio TAF Tel Aviv. Nous allons vous proposer une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme. À travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Aujourd'hui, notre émission est consacrée au sionisme avant le sionisme.
Bonjour.
Bonjour Michael.
C'est quoi ça, le sionisme avant le sionisme ?
Et bien justement, est-ce que vous pouvez nous parler de la présence juive en Palestine avant le 19e siècle ?
Les juifs n'ont jamais vraiment quitté la Palestine, en tout cas lorsqu'ils n'étaient pas obligés. Ils en ont été expulsés en 70 par les Romains. Une partie sont malgré tout restés. On connaît l'histoire de Yavne, bien évidemment. Et puis on sait que dans certaines villes, les juifs se sont maintenus, ont gardé de petites communautés, notamment à Gaza, notamment à Jérusalem, à Safed, à Tibériade. Et on sait également que de grands textes importants pour le judaïsme, comme par exemple le Shulchan Aruch, qui est un peu le code religieux selon lequel nous vivons le judaïsme, a été rédigé par Yosef Karo en Palestine, à Safed, au XVIe siècle. Donc les Juifs sont présents en Palestine depuis toujours. Et ils n'ont jamais quitté cette terre lorsqu'ils n'ont pas été obligés. Alors évidemment, il y a eu également d'autres Juifs qui ont essayé de revenir ou qui ont proposé de revenir, et cela a été vrai tout au long du Moyen-Âge. Il y a de nombreuses tentatives de Juifs de revenir, s'installer. Certains y parviennent, d'autres n'y parviennent pas. Certains proposent l'idée, mais ne la réalisent pas par eux-mêmes. Et puis, il y a également des communautés qui continuent à exister, à se maintenir, à vivre, souvent de façon très modeste. Et puis, la terre de Palestine est une terre quasiment déserte. C'est constaté par beaucoup de voyageurs. C'est une terre où il y a eu énormément de visiteurs. Il y a un livre en hébreu qui est consacré justement à tous ces voyageurs qui ont visité la terre d'Israël, aussi bien juifs que non-juifs, et qui racontent plus ou moins tous la même chose, à savoir une terre quasiment à l'abandon, désertique, aride, avec très peu d'habitants. On n'a pas des chiffres exacts jusqu'au 19e siècle, on n'a pas vraiment de chiffres exacts, mais on en a à partir du 19e siècle. On sait que c'est une terre qui est désertée et que les gens vivent pauvrement. Ça n'est pas une terre, c'est sous une terre occupée. Il n'y a pas de capitale, il n'y a pas d'État de Palestine. Il n'y a jamais eu d'État de Palestine. Mm-hmm. Toujours été, après le royaume de Jérusalem, le royaume des croisés, il y a eu les Mamelouks qui ont dirigé, dominé cette terre jusqu'au XVIe siècle. Et puis après, il y a eu l'Empire ottoman, dont la capitale était évidemment en Turquie, donc c'était une terre où les Turcs dominaient cette terre, et à aucun moment Jérusalem n'a été la capitale d'un quelconque État. Il n'a jamais été réclamé d'ailleurs en tant que tel jusqu'au mouvement sioniste moderne. Donc on peut citer beaucoup de textes de juifs et de non-juifs qui sont sionistes. Ces textes ne sont pas très connus, malheureusement, même si je pense que certains de nos éditeurs sont des francophones. Et donc, on lut la littérature française. Et le voyage en Orient, c'est un grand mythe de la littérature française. Et on sait que beaucoup d'écrivains français ont fait le voyage de Palestine. Chateaubriand, Lamartine, Flaubert, chacun pour d'autres raisons. Mmh. Mais ils donnent tous plus ou moins... Après, il y a eu Pierre Loti, d'autres, qui ont visité cette terre et qui font tous plus ou moins la même description d'une terre... à l'abandon, une terre où vivent des gens assez pauvrement et qui y a une présence juive qui est à chaque fois signalée par tous ces voyageurs. Et donc ces constatations sont faites par ces écrivains qui appellent parfois à un retour des juifs. On l'ignore peut-être, certains l'ignorent, mais Napoléon, mmh. Il y a une déclaration de Napoléon 1801, après sa fameuse campagne d'Égypte, où il va notamment à Saint-Jean d'Acre. Et en 1801, il écrit un grand texte où il appelle au retour des Juifs en Palestine et à la création d'un État juif. Mmh. Alors il y a d'autres personnalités, le prince de Ligne par exemple, Et ça, ce sont parmi les non-juifs qui ont appelé ça, et énormément de voyageurs britanniques d'ailleurs, puisque dans la vision, je dirais, religieuse anglicane, Jérusalem est un symbole extrêmement important. Et le fait que des juifs retournent s'installer en terre d'Israël, c'est toujours vrai aussi, aujourd'hui c'est les évangélistes américains qui sont très pro-sionistes, parce que le fait que des juifs vivent sur la terre d'Israël, ça fait partie, je dirais, de cette vision religieuse qu'ils ont du monde.
On parlait de Jérusalem, justement, il me semble que même avant le sionisme, les juifs étaient majoritaires à Jérusalem.
Oui, on a des chiffres sur Jérusalem qui ont été publiés à partir des années du milieu du 19e siècle. Donc la première statistique que l'on a, qui a été publiée dans une édition de l'Encyclopédia Britannica de 1844, parle de 15 000 habitants à peu près à Jérusalem, dont 7 100 juifs, 5 000 musulmans et 3 400 chrétiens. Un petit peu plus tard, au début du sionisme, par exemple, pour prendre une autre date, 1896, donc le début du mouvement sioniste, il y a 45 000 habitants en Jérusalem, dont 28 000 juifs, 8 500 musulmans et 8 700 chrétiens. Donc voilà à peu près la répartition. Et depuis 1844, majorité juive à Jérusalem, de façon continue, ou bien, si ce n'est pas une majorité, c'est de toute façon la population la plus importante à Jérusalem. Donc ça, c'est un fait établi bien avant Herzl, bien avant la création du mouvement sioniste, bien avant la rédaction de l'État des Juifs, bien avant, je dirais, l'installation même des aliotes modernes à partir du début du XXe siècle. Donc il y a une présence juive, il y a un amour de la terre qui est véhiculé non seulement par les Juifs, mais qui est reconnu aussi par les chrétiens. On sait par exemple qu'un père jésuite qui visite la Palestine, qui s'appelle le père No, raconte l'amour des Juifs pour la Terre Sainte qu'ils ont perdu par leur trahison du Christ. Est incroyable. Nombre d'entre eux sont venus d'Europe pour y trouver un peu de réconfort, bien que le joug y soit pesant. Et il écrit ça en 1702. Donc c'est déjà au XVIIIe siècle. Alors on a bien sûr les fameux contes, les fameuses tentatives de retour de Rabbi Nachman, qui essaye de revenir par bateau, mais qui n'arrive pas finalement à revenir en terre d'Israël, mais qui veut absolument revenir. Il y a le rabbin Yehiel qui vient, 1800, une alia. Donc les rabbins sont aussi des grands sionistes et essayent de remonter, de revenir en terre d'Israël. Je donnerai un autre exemple, parce que je crois que c'est intéressant, mais notamment peut-être le premier texte d'un véritable mouvement national. C'est un texte de 1360, donc ça s'appelle Shvilei Haemuna, écrit par un rabbin qui s'appelle Meir Ibn al-Darbi, qui vivait en Espagne. Et qui donc, Shvilei Haemuna, on pourrait traduire ça par les sentiers de la foi, et qui écrit un texte presque moderne du sionisme. Il dit « Lorsque de nombreux juifs, pieux et savants en connaissance de la Torah, se porteront volontaires pour se rendre au pays d'Israël et à Jérusalem, mus par le désir de servir, par la pureté de l'âme et l'amour de la sainteté, lorsqu'ils arriveront un par un et deux par deux des quatre coins de l'horizon, lorsque beaucoup s'installeront là et que plus nombreuses se feront les prières sur la sainte colline de Jérusalem, alors le Créateur hâtera le jour de la rédemption. » C'est un texte de 1360, et donc on voit très bien que cette idée d'Alia, le mot même d'Alia est intéressant, parce que c'est le dernier mot de la Bible. Le dernier mot de la Bible, Vayal, c'est-à-dire est monté, et le fait de dire « nous montons en Israël », c'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'une agira, comme on dirait en hébreu, c'est-à-dire d'une immigration ou d'une migration. Il s'agit d'une montée. Parce que dans notre idée, le sionisme est une façon de monter spirituellement. Et donc on monte en Israël. Et à l'inverse, lorsqu'on quitte Israël, on descend. Et donc c'est une façon de se perfectionner. C'est donc une façon de s'élever, le fait d'aller s'installer en Israël.
Qu'est-ce qui fonde le sionisme avant le sionisme ?
Ce qui fonde le sionisme avant le sionisme, c'est bien évidemment cette relation, cette alliance entre le peuple juif et sa terre. Une alliance que rien ne peut, au fond, rompre. Alors, évidemment, en hébreu, c'est assez curieux, mais quand on dit faire une alliance, on dit l'ikrot brit. C'est-à-dire, ça veut dire couper une alliance. C'est ce qui explique la raison de la circoncision aussi de l'alliance. Et on coupe quelque chose. Donc une alliance, c'est au départ une forme de rupture. Et donc il faut rassembler des choses qui se sont rompues. Il faut essayer de les rassembler. Donc cette alliance, c'est quelque part, il y a eu une séparation. Alors la séparation, on la connaît, elle est métaphysique. Mais le peuple juif, le fait de revenir en Israël, c'est justement pour réparer. C'est ce qu'on appelle en hébreu une forme aussi de tikkun. Mmh. C'est-à-dire, c'est une façon d'être meilleur. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un acte de se déplacer ou d'immigrer. Il faut être meilleur.
Nous
et
allons...
on écoute
Absolument.
Une petite chanson qui nous montre justement quelque chose d'intéressant. C'est une chanson d'Ehud Manor qui dit « En li eretz acheret ». Nous n'avons pas d'autre pays.
Magnifique chanson. « En li eretz acheret » גם אם אדמתי בוערת רק מילה בעברית חודרת אל אורך אל נשמתי בגוף כואב בלב רעב כאן וביתי לא אשתו כי ארצי שינתה את פניה להזכיר לה להשאיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה אין לי ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת רק מילה בעברית חודרת אל אורכה אל נשמתי Magnifique chanson.
Alors, nous n'avons pas d'autre pays, ici est notre maison.
Absolument. Michael, vous pouvez nous parler des précurseurs du sionisme ?
Il y a eu de nombreux précurseurs du sionisme sur le plan, je dirais, des idées. Beaucoup de gens ont voulu revenir en terre d'Israël. Mais il y a eu surtout, dans le courant du 19e siècle, deux véritables... penseurs qui ont envisagé le sionisme au sens moderne, et qui étaient des rabbins, qui D'accord. justement ont eu une vision, je dirais, séculière de ce que pouvait être le sionisme, non pas une vision religieuse, mystique, ça a toujours existé, j'en ai pas mal à parler, on a évoqué Nachmanide, on a évoqué Gaon de Vilna, on a évoqué Rabbi Nachman, qui ont tous parlé de ce retour à Sion comme un rêve, comme une vision, mais c'était encore une fois une vision à caractère religieux qui n'avait pas, je dirais, de prégnance sur le concret. Et là, on a deux rabbins, je dirais peut-être trois, mais deux dont on a vraiment, on connaît les textes, un dont on connaît moins bien les textes, qui était le rabbin de Corfou, qui s'appelait Rabbi Yehuda Bibas, qui a également envisagé une théorie de la souveraineté juive à l'époque moderne, avec une vision extrêmement séculière, où il parlait même de libérer par les armes la terre d'Israël. Et donc, il disait quelque part, voilà, nous sommes dans une époque troublée, la nation juive est malade, il faut donc la libérer de cette maladie de la galoute, c'est-à-dire la maladie de l'exil. L'exil est une maladie, une calamité, une catastrophe. Il faut la guérir et pour ça, il va falloir reconquérir par les armes la terre d'Israël. Mais les deux rabbins qui peut-être ont été les plus... qui ont le rédigé de façon assez systématique une vision du sionisme, c'est le rabbin Yehuda Alkalai et le rabbin Tzvi Hirsch Kalischer, qui ont, eux, vraiment envisagé un processus historique de retour. Et donc, ils ont envisagé ça dans le courant d'un mouvement politique historique. Alors, évidemment, ils n'ont pas eu, je dirais, la force politique ni les moyens que Herzl a pu se donner. Mais lorsqu'on voit leur vision, elle est assez proche de celle de Herzl. Et ce sont des gens qui vivent au milieu du 19e siècle et qui donc écrivent le texte. Un des textes est de 1843, par exemple, qui s'appelle « La troisième rédemption ». Et ce texte d'Al-Khalaï est assez exceptionnel. Je vais en lire un petit passage. « Nous, en tant que peuple, sommes exactement appelés Israël uniquement dans le pays d'Israël. Lors de la première conquête sous Josué, le Tout-Puissant amena les enfants d'Israël dans un pays qui était préparé. Ses maisons étaient pleines de choses utiles, ses puits donnaient de l'eau et ses vignes et bosquets d'oliviers étaient chargés de fruits. Cette nouvelle rédemption sera, hélas, à cause de nos péchés, différente. » Notre pays est dévasté et désolé, et nous devons construire des maisons, creuser des pluies et planter des vignes et des oliviers. Nous sommes obligés de ne pas essayer de partir à l'instant et tous ensemble. Premièrement, il est nécessaire pour beaucoup de Juifs de rester pour un temps dans les pays de dispersion, car ainsi ils pourront aider les premiers qui s'installeront en Palestine et qui seront sans aucun doute les parmi les plus pauvres. Deuxièmement, le Seigneur désire que nous rachetions notre dignité. Encore un élément qu'on entend chez Herzl aussi. Nous ne pouvons donc émigrer en masse, car nous devrions alors vivre comme des bédouins, dispersés sous des tentes dans les champs de la Terre Sainte. La rédemption doit venir lentement, le pays doit être construit et préparé par degrés. Il y a deux sortes de retours, individuel et collectif. Le retour individuel signifie que chaque homme doit se détourner de ses mauvais penchants et se repentir. La voie d'un tel repentir a été prescrite dans les livres pieux de notre tradition religieuse. Cette forme de repentir est appelée individuelle car elle est relative aux besoins particuliers de chaque homme. Le retour collectif, en revanche, signifie que tout Israël retournera au pays qui est l'héritage de nos ancêtres pour recevoir le commandement divin et pour accepter le joug du ciel. Ce retour collectif a été annoncé par tous les prophètes. Bien que nous soyons sans mérite, le ciel nous aidera pour le salut de nos saints ancêtres. Voilà ce qu'écrit Al-Khalaï, qui vivait dans les Balkans, et qui était séfarade, et qui donc envisage déjà une rédemption et un mouvement sioniste moderne avec le retour d'Israël. Et il utilise un mot intéressant, c'est qu'il dit le nom véritable des Juifs, c'est Ivri.
Ivri ?
Ivri au sens de hébreu.
D'accord.
Et donc déjà, pour lui, il s'agit d'un retour à, je dirais, du peuple hébreu sur la terre d'Israël, sur la terre d'Israël. Alors, il définit également politiquement les frontières, il parle de géographie. Je dirais, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un géopoliticien avant l'heure. Tzvi Hirsch Kalischer, qui était à peu près contemporain, qui, lui, vivait en Pologne et en Russie, lui écrit de façon un petit peu différente, et lui a l'intention de créer un mouvement sioniste en utilisant notamment l'argent de certains juifs. Donc, il écrit à Rothschild pour lui demander son aide. Évidemment, il est conduit, mais bon. Et par la suite, il rejoint un groupe de colonisation juive qui se fonde à Francfort, dirigé par un certain Chaya Lourier. Et donc, il écrit un livre qui s'appelle « Drishat Sion », qu'on pourrait traduire « À la recherche de Sion », publié en 1862, et dans lequel il reprend des thèmes qui sont, je lis juste le début, qui dit « Mon cher lecteur, mettez de côté la vue conventionnelle que le Messie sonnera de la grande trompette et fera trembler tous les habitants de la terre. Au contraire, la rédemption commencera par l'éveil du soutien des philanthropes et par le consentement des nations pour le rassemblement de certains des dispersés d'Israël en Terre Sainte. » Donc déjà, il appelle à ce qu'on pourrait appeler un mouvement sioniste moderne. Et là, on parle d'un texte qui est écrit en 1862. Et il compare le nationalisme juif aux autres. Et voilà ce qu'il écrit, un petit peu plus loin. « Pourquoi les peuples d'Italie et d'autres pays sacrifient-ils leur vie pour le pays de leur père pendant que nous, comme des hommes privés de force et de courage, ne faisons rien ? Sommes-nous inférieurs aux autres peuples qui ne comparent jamais la vie et la fortune à l'amour du pays et de la nation ? Prenons à cœur les exemples des Italiens, des Polonais et des Hongrois qui ont renoncé à leur vie et leur possession dans la lutte pour l'indépendance nationale, tandis que nous, enfants d'Israël qui avons le plus glorieux et le plus saint des pays comme héritage, restons sans esprit et silencieux. Nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Tous les autres peuples ont combattu de toutes leurs forces seulement pour sauver leur propre honneur national. Combien devrions-nous nous mettre à l'œuvre nous-mêmes, car notre devoir est de travailler non seulement pour la gloire de nos ancêtres, mais pour la gloire de Dieu qui choisit Sion. » Voilà le texte de Tzvi Hirsch Kalischer, qui est aussi une forme de sionisme avant l'heure.
Absolument, absolument. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde le mythe de la Palestine arabe. Jusqu'à la fin du 19e siècle, la Palestine était, comme vous l'avez dit, une terre vide et presque entièrement désertique. On n'a pas vraiment les chiffres, mais je crois que ça tournait entre 50 000 et 100 000 habitants et qui ne servait de base territoriale à aucun État arabe. Du coup, d'où vient ce fameux mythe de l'omniprésence des Arabes en Palestine ?
Alors, je crois que, bien entendu, c'est le narratif que l'on entend aujourd'hui qui consiste à présenter le sionisme comme un mouvement étranger et le peuple juif comme un mouvement, comme un peuple étranger, comme une nation étrangère à cette terre, comme s'ils étaient arrivés comme ça, par la voie du Saint-Esprit, si je pourrais dire, un beau jour, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on crée un État comme ça, on pourrait dire en anglais, « out of the blue ». Bien évidemment, nous venons de voir que le sionisme existe bien avant le mouvement sioniste et bien avant Herzl, et que ce lien à la terre d'Israël est un lien essentiel. Et il y a toujours eu, dans ce qu'on appelait la terre de Canaan et ensuite Eretz Israël, il y a toujours eu des peuples qui ont vécu, des Bédouins et des familles qui étaient là, et des tribus, qui vivaient péniblement sur une terre qui était, on peut dire, inhospitalière, puisque cette terre était désertique. Et donc, ceux qu'on pourrait appeler ces Palestiniens, puisqu'ils étaient là, étaient très peu nombreux. Ils vivaient principalement dans 4 ou 5 petites villes, Naplouse, Ramallah, Jéricho, Hébron, certains aussi à Gaza et à Yafo, donc voilà, mais des petites communautés, souvent en ayant peu de rapport avec eux, et avec, je dirais, une composition démographique assez particulière, à savoir que c'était finalement des clans ou des tribus qui se faisaient régulièrement, d'ailleurs, un peu la guerre, et qui combattaient les unes contre les autres.
D'accord.
Et donc, c'est ce qui a montré, d'ailleurs, même dans le mouvement palestinien moderne, qu'il y a des rivalités entre ces clans, entre ces grandes familles, qui sont, encore une fois, des clans sur une base, je dirais, familiale, au sens large. Et donc, toutes ces populations vivaient en Palestine, mais la population n'a jamais dépassé les 100 000 habitants. Même au moment de l'arrivée des sionistes, disons au début du XXe siècle et au moment de l'arrivée des Anglais, la population arabe n'a jamais dépassé les 200 000. Elle était à peu près de 100 000 à la fin du XIXe siècle, environ peut-être 200 000 au début du mandat britannique, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale. Alors, bien évidemment, il y avait un pouvoir qui était ottoman, donc c'était les Turcs qui avaient séparé Palestine à partir du XVIe siècle en régions. Et donc, dans chacune de ces régions, il y avait ce qu'on appelle un murtar, c'est-à-dire une espèce de chef de clan qui dirigeait cette région, mais qui était nommé par les Turcs et qui parfois venait de Turquie ou venait d'autres régions. Donc, si on parle et évidemment, le but de ces chefs de région, c'était la collecte de l'impôt. Et donc, il y avait des bagarres entre les villages pour justement échapper à l'impôt. Ce qui fait que les tribus se combattaient les unes des autres dans des espèces de cycles de représailles. Et je crois que c'est raconté un peu partout. Je dirais l'immigration massive des Arabes, elle arrive à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, et énormément après l'arrivée des Anglais. Ce qu'on ignore, mais ce que savent les démographes, les sociologues, c'est que la population arabe a augmenté entre les deux guerres, c'est-à-dire pendant la période du mandat britannique. L'immigration arabe a été plus importante que l'immigration juive.
Mais c'était une immigration qui était pour contrer, on va dire, l'immigration juive. Est-ce que les Anglais avaient peur peut-être de cette omniprésence des Juifs
Non, c'était avant tout parce que les conditions de vie étaient un peu meilleures et qu'ils espéraient trouver du travail et éventuellement même profiter, je dirais, de ce mandat britannique et du développement aussi du Yishuv, c'est-à-dire de la société par les Juifs qui s'y trouvaient. Et donc, par intérêt, pour trouver du travail, ils venaient s'y installer, parfois aussi parce qu'ils étaient aussi encouragés par les Anglais, on y reviendra dans une autre émission, justement, dans l'idée de maintenir leur pouvoir en divisant les populations D'accord. qui étaient sur place, et en les mettant les unes contre les autres. Il n'y a jamais eu, par exemple, de représentation officielle des Palestiniens, si on peut dire comme ça, ou des Arabes de Palestine, avant l'existence du mandat britannique, puisque ce sont les Britanniques qui ont fait élire le premier au comité musulman en D'accord. Palestine après leur arrivée en Palestine en 1917. Je crois que le premier au comité musulman a été créé au début des années 20. Donc avant, il n'y a jamais eu de véritable représentation ou de véritable entité palestinienne ou arabe musulmane. Et donc ceux qui ont dirigé ce pays ont toujours été des musulmans non arabes.
D'accord.
Turc avant les Mamelouks, et donc il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de la Palestine, il n'y a jamais eu d'État arabe musulman sur toute cette région de Jérusalem.
D'accord.
Et autour. Alors encore une fois, les frontières ont changé au cours de l'histoire selon les occupations. Mais le seul moment où il y a eu un pouvoir musulman, c'était au 8e ou 9e siècle. De notre ère.
ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה. מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה. קבליני אל שירייך, קלה יפהפייה. פתחי לי שערייך, אבוא במעודיה. בצל עצי החורף, הרחק מאור חמה. יחדיו נקה פה שורש אל לב האדמה. אל מעיינות הזוהר, אל בארות התום, מולדת ללא תואר וצועני יתום. עוד ליבי מכה עם ליל ולוחש לו בלח. את ליאת האחת, את ליאת המובה, את ליאת המעט, המעט שנותר. בבגדינו את ריח הכפרים בפעמון ליבנו יקוע דרים ישנה דממה רוגעת וקרן אור יפה ברגל יחפה עוד לא תנו כל פלאי עוד הזמר לא שם עוד ליבי מכה עם לי ולוחש לו בלי את המעט, המעט שנותר
Belle chanson, non ?
Magnifique.
Rami Kleinstein. Alors, toutes tes splendeurs et tes beautés ne sont pas encore terminées. Ça s'adresse à vous, Stéphane.
Absolument.
Mais je crois que c'est plutôt à la terre d'Israël dont on parle.
Michael, est-ce que vous pouvez nous parler des premières alias avant le sionisme ?
Alors, bien entendu, il y a eu, comme je l'ai dit, des alias à caractère religieux, spirituel, on en a parlé. Mais il y a, à partir de, des années 1800, fin des années 1870, 1880, une alia qui est extrêmement concrète et qui est une alia qui a pour but de créer des implantations à caractère agricole et notamment même des écoles pour former les juifs à l'agriculture. Une école qui est connue, qui a été créée par l'Alliance israélite universelle, qui s'appelle Mikvé Israël, qui est une école de, pour former les gens à l'agriculture, et une vraie ferme qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est un lycée où des jeunes avec un internat qui existe encore jusqu'aujourd'hui, où il y a d'ailleurs même un lycée français, mais également d'autres colonies qui sont créées, d'autres villages qui sont créés à différents endroits, Petar Tikva notamment, la porte de l'espoir, Zichron Yaakov, et d'autres petits villages qui sont créés ici ou là avec l'argent de philanthropes juifs qui encouragent ces juifs à s'installer. Alors, ces candidats, si je peux dire, à l'immigration, ce sont vraiment ce qu'on pourrait appeler les premiers sionistes au sens pionnier du terme. Ce sont des vrais pionniers qui, donc, pour la plupart, sont totalement ignorants en matière d'agriculture et qui arrivent sur une terre où il y a des maladies, malaria. Et donc, notamment beaucoup de problèmes d'eau. Et ils décident de s'installer, créent des villages et montent ces premières colonies agricoles qui, après, vont devenir de grandes villes. Parce qu'aujourd'hui, Petar Tikva, après Nes Tziona et d'autres, Zichron Yaakov, aujourd'hui, ce sont des villes. Petar Tikva est une ville de 200 000 habitants aujourd'hui. Donc, mais à l'origine, Rishon LeZion, par exemple, ce sont des villes où se créent des fermes, notamment avec des vignes. On connaît Zichron Yaakov, on connaît Rishon LeZion pour son vin aussi. Et donc, ces projets agricoles sont financés par des philanthropes juifs, que ce soit les barons de Rothschild, que ce soit Montefiore, que ce soit le baron Hirsch et d'autres qui aident ces colonies à se créer. Et donc, il y a une association qui amène tous ces juifs qui s'appelle les Bilouim.
D'accord.
Et Bilouim, c'est Bet Yaakov Lechuven Elchou, c'est-à-dire c'est une phrase de la Bible qui dit « Maison de Yaakov, levez-vous et partons ». Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on lit le texte justement de fondateur, je dirais seulement les Bilou, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler le sionisme moderne. 1882, ce mouvement part, ils se réunissent à Constantinople avant de partir. Et donc, ils signent, à partir de cette devise, justement, biblique, ils signent, je dirais, un mémoire, une espèce de mémorandum qui leur sert de plateforme politique. et qui dit la chose suivante. Environ 2000 ans ont passé depuis que, dans une heure terrible, après un combat héroïque, la gloire de notre temple s'est envolée en fumée et nos rois et nos chefs ont changé leur couronne et leur diadème pour leur chaîne de l'exil. Nous avons perdu notre pays où habitaient nos pères bien-aimés. En exil, nous avons pris avec nous de toutes nos gloires seulement une étincelle du feu par lequel notre temple, la demeure de notre Dieu un, fut entourée. Et cette petite étincelle nous conserva en vie pendant que les tours de nos ennemis tombèrent en poussière. Et cette étincelle devint une flamme céleste et diffusa de la lumière sur les héros de notre race et leur permit d'endurer les horreurs de la danse de la mort et les tortures des autodafés. C'est un texte puissant.
Absolument.
Et qui, à la fin, se termine avec la petite phrase suivante issue de Pirkei Avot, de Hillel, qui dit « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ?» Et nous proposons de construire la société suivante à des fins nationales. Premièrement, la société se nommera Bilou, en accord avec la devise Bet Yaakov Lechu Unelcha. Elle sera divisée en branches locales selon le nombre des membres. Le siège du comité sera à Jérusalem. Les donations et contributions ne seront pas fixées et illimitées. Ce que nous voulons, c'est 1. Une demeure dans notre pays. Elle nous fut donnée par la miséricorde de Dieu et elle est considérée comme nôtre dans les archives de l'histoire. 2. Le demander au sultan lui-même. Et s'il est impossible de l'obtenir, demander que nous puissions au moins l'avoir comme un état dans un état plus grand. Nous aurions notre loi interne, nous aurions des droits civils et politiques, et nous ne traiterions avec l'Empire turc que pour des affaires internationales, pour aider notre frère Ismaël en cette époque de besoin. Nous espérons que les intérêts de notre glorieuse nation éveillera l'esprit national chez les hommes riches et puissants, et que chacun, riche ou pauvre, donnera le meilleur de soi pour la cause sainte. Écoute, ô Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, et notre pays, Sion, notre espoir.
Magnifique.
Donc ça, c'est un texte de 1882, une proclamation du Bilou, qui reste sur le plan des principes, je dirais, la plateforme fondatrice du mouvement pionnier moderne que l'on connaît. Alors il y a eu d'autres précurseurs, avec des idées peut-être un peu plus arrêtées.
Quels sont-ils ?
Moshe S, par exemple, Moses S, qui était un disciple de Marx, qui après les années 1860 s'est un petit peu écarté de Marx parce qu'il a découvert que Marx, tout en étant d'origine juive, était un petit peu antisémite.
C'est ça. Comment on peut être sioniste et marxiste ? C'est une vraie question.
Eh bien, dans un texte intéressant qui s'appelle Rome et Jérusalem, S développe justement cette idée qu'il y a la reconstitution de Jérusalem, c'est le mouvement de l'histoire. Et donc, dans la dialectique de l'histoire, la reconstruction de Jérusalem fait partie de ce mouvement obligatoire, nécessaire de l'histoire. L'histoire ne pourra pas continuer si Jérusalem n'est pas reconstruite. Et donc, il dit à un moment, la Palestine doit devenir le centre matériel, puisque Rome a été défait et sera défait. Donc, Jérusalem, c'est un peu l'alternative à la chute de Rome. Alors, évidemment, Jérusalem de l'ère nouvelle doit s'élever sur le sol même où se dressait la Jérusalem antique. Donc c'est historiquement dans ce mouvement-là que s'inscrit S. Mais surtout, son idée, c'est de créer une nation parce que, pour lui, le judaïsme est avant tout une nationalité. Et ça, je crois que c'est un élément important à expliquer à nos amis marxistes d'aujourd'hui qui ne comprennent pas que le peuple juif, c'est un peuple, c'est une nation et que dans l'histoire de l'humanité, cette nation a joué un rôle et qu'elle continuera à jouer un rôle. Et donc vouloir supprimer l'idée même de nation, ça n'est pas faire la guerre au nationalisme, c'est faire la guerre à l'histoire. Et ça, Ness dit à un moment, c'est une nation qui a été jadis l'instrument de la régénération spirituelle de la société. Et à présent que s'accomplit la régénération des nations historiques, justement par la justice sociale, etc., le judaïsme célèbre sa propre résurrection avec sa renaissance culturelle. Autrement dit, si les juifs se reconstruisent culturellement, spirituellement, nationalement, eh bien ça va servir l'humanité tout entière. Donc il est de l'intérêt du monde d'être sioniste. Les juifs ne sont pas un groupe religieux, dit-il, mais une nation à part. Une race particulière. Évidemment, race n'a pas le sens que ça a pris ensuite pour lui. Et le juif moderne qui le nie n'est pas seulement un apostat, un renégat de sa religion, mais aussi un traître à son peuple, à sa tribu et à sa race. Donc la nation juive, c'est un modèle pour l'humanité. De même que je pense que le sionisme doit être aussi un modèle pour les nations. Mmh. Et aujourd'hui, dans le contexte historique que l'on connaît, on voit à quel point c'est important de comprendre que le judaïsme, dans sa phase historique actuelle de reconstruction nationale autour d'un État et avec les problèmes qu'il y a aussi à l'intérieur de cet État, que ce retour à la nation, c'est une façon aussi de se régénérer spirituellement. Et on a pu retrouver, je dirais, toutes les richesses du judaïsme grâce au sionisme. Mmh. Le sionisme a permis à la culture juive, y compris au judaïsme orthodoxe, même non sioniste, ou asioniste, ou même antisioniste, de se régénérer. Mmh. Où peut-on apprendre aujourd'hui le yiddish aussi bien qu'en Israël? Où peut-on apprendre aujourd'hui les textes de notre tradition, et même de ceux qui ne sont pas sionistes, sinon dans ce pays qui a créé, je dirais, les institutions et les fondements à la fois matériels, physiques, spirituels de cette renaissance.
Quels sont les premiers pionniers, en fait, qui sont arrivés en Palestine, les premiers pionniers, on va dire, avant sionistes?
Alors évidemment, il y a les Bilouim, il y a aussi tous ces gens qui sont venus dans ces premières colonies. Ils étaient, on appelle ça la première Aliyah. Mm-hmm. Ils sont venus souvent à travers des organisations qu'on pourrait appeler philanthropiques, souvent financées par de grands philanthropes juifs, j'ai dit Rothschild, mm-hmm, ou autres. Ils se sont installés, ils ont travaillé la terre. Assez curieusement, une grande partie d'entre eux sont repartis d'ailleurs, d'accord, contrairement à ce qu'on... C'est un mythe. Les sionistes ont souvent beaucoup souffert de malaria et parfois ont quitté le pays parce qu'ils n'ont pas réussi dans leur projet. Ils ont eu d'énormes difficultés matérielles. Et donc, on peut considérer que tous ces premiers sionistes pionniers, comme vous dites, sont issus, en gros, hein, je dirais, de ce qu'on appelait le mouvement des Chibat Sion, c'est-à-dire des amants de Sion. Encore une fois, au sens très très large du terme, association qui était avant tout une association à caractère spirituel, mais qui a adopté un programme dont le but était deux choses. La première, la réinstallation physique des Juifs en Israël pour développer la terre. Et la deuxième chose, c'est reconnaître la centralité spirituelle de la terre d'Israël dans le judaïsme.
D'accord. Pour tous les peuples, même hors Israël.
Oui, pour toutes les diasporas. Alors ça, c'est quelque chose qui était extrêmement compliqué, parce qu'il y a tout un judaïsme diasporique qui s'est développé, notamment, on sait qu'il y a eu le Talmud de Babylone, donc on sait qu'il y a des juifs qui pensent qu'il ne doit pas y avoir de centralité d'Israël dans le judaïsme, que justement le judaïsme se développe en exil, que l'errance est une idée juive, que le giné juif ne peut se développer justement que parce qu'il est universel. Mmh. Et donc, il y a cette tension dans le sionisme, cette tension entre l'universel et le particulier. Et beaucoup de gens pensent peut-être que si on est trop particulier, particulariste, on ne peut pas être universaliste. Or, l'idée même du sionisme, c'est qu'un juif, il peut être à la disposition des autres, il peut aider le monde en étant lui-même, en étant fidèle à lui-même. Et je crois que s'il y a une idée fondamentale dans le sionisme, c'est ça. C'est la fidélité à la terre. C'est Nietzsche qui disait ça, d'ailleurs. Nietzsche disait « Soyez fidèle à la terre ». Alors, cette fidélité, elle est fondamentale.
Nous allons écouter une nouvelle musique. Qu'est-ce que c'est, Michael?
Ah, c'est une chanson de Shlomo Arzi, je pense, qui s'appelle Eretz Hadasha, un nouveau pays, une nouvelle terre.
יש לנו ארץ למה עוד אחת בחוץ שקיעה של יום שני, וערבים מתפללים כי איזה חג. חבר למין מסע כזה בחורף מסתכל בי, רגליו קצרות אבל ראשו חכם. אנחנו במנוסה, הכל פה זז, אומר לי אתה גם אבא, אתה גם בן אדם. מביט מבעד לזכוכית, עיניים יש לו רגישות, כן כן. מוזר איך האויב עזר, נראה לו אנושי וגם פוחד. יש לי אישה, זאת אמא שלך, ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר. אם לא נעת, לא נביט, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. שתי כבשים עולות על אם הדרך, לא נדרוס אותן, אנחנו לא דורסים. שב ילד שב, אני אומר לך שב, חלף בשפע זה לא אומר ניסים. שולף מצלמה של כיס, חושב שגן העדן מדויק, מכחיש שקר לו ומצלם כדי שנזכור מה שהיה. קראתי בעיתון על אחת בת מאה שכל חייה עשתה מעשים טובים. שב ילד שב, אני אומר לך שלא כל האנשים נולדו רעים. מזמן היא מתה די מזמן, אביך הוא ימות גם יום אחד. לא גן העדן לא קיים, אולי קיימת ארץ חדשה. יש לי אישה, זאת האמא שלך, ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר. אם לא נעת, לא נביט, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. גשם כבר יורד וזה חורף, פעם זה הכל היה ורוב. שב ילד שב, למה להתרפק, משהו חורק בזיכרון. מביט מבעד לשלטים, עיניים יש כדי להסתכל. תגיד, שואל אותי האם, האם ייתנו לנו בכלל להיכנס. חברים למין מסע כזה בחורף כבר חסר לי, אבי ישן זקן ומסתגר. איתו הלכתי דרך העיניים שכבר אין לי, עכשיו ילדי שלי איתי עולה. מביט מבעד לזכוכית, יש לנו ארץ, למה עוד אחר. בחוץ שקיעה של יום שני, בפנים אני והוא כמו איש אחד. יש לי אישה, זאת אמא שלך, ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר. אם לא נעת, לא נביט, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. ארץ חדשה, ארץ חדשה, ארץ חדשה, ארץ חדשה.
ארץ חדשה, un nouveau pays. Mais Herzl, notre ami, a écrit un livre utopique qui s'appelait Altneuland, c'est-à-dire terre ancienne, terre nouvelle. Mm-hmm. Donc c'est une terre nouvelle sur une terre ancienne.
En parlant d'Herzl, en 1897 a eu lieu le premier congrès sioniste. Quel était, à Bâle en l'occurrence, quel était ce programme de Bâle ?
Alors d'abord, il faut voir que Herzl a, pendant quelques mois, en l'espace de moins d'un an, réussi à réunir un congrès, assez impressionnant d'ailleurs. Je suis allé à Bâle, personnellement, voir la salle dans laquelle s'est déroulé ce congrès, et également d'ailleurs l'hôtel des trois rois où a vécu Herzl, où il était on a cette fameuse photo où il est sur la terrasse, où il est pris de profil, qui est la photo un peu historique, je dirais, de Herzl. Et donc il a réussi, en l'espace de quelques mois, à réunir des représentants de nombreuses communautés dans ce mouvement, évidemment en se fondant sur la base des Amantillons et d'autres organisations. Et dans cette première réunion, évidemment, on s'attendait à ce que ce soit qu'il y ait de nombreux débats sur la nature du judaïsme, du peuple juif, sur qu'est-ce que c'était que le sionisme, etc. Et Herzl a finalement pris une toute autre direction. Herzl avait compris dès le départ qu'il ne fallait pas débattre de ce qu'était le peuple juif, ce qu'était la nation juive, et ni même ce qu'était à la limite le sionisme, mais le sionisme était un outil. Et donc, il fallait un programme qui n'était pas seulement un programme, comme on l'a vu dans les textes, par exemple, de Al-Khalaï, de Kalischer, même de Moshe Hess, qui étaient les textes un petit peu idéologiques. On essayait d'évoquer la relation historique, l'histoire du peuple juif sur sa terre, et y compris des phrases un peu à caractère, je dirais, métaphysique, théologique. Ceux-là, eux, étaient des visionnaires. Lui était un homme d'action politique pragmatique. Et donc, il a dit... Le programme que nous allons adopter, la résolution, c'est un programme d'action. Et voilà ce qu'il dit, ce programme, parce que peu de gens connaissent ce programme, alors lisons-le. Le sionisme a pour but un foyer national légalement garanti et publiquement reconnu pour le peuple juif en Palestine. Pour réaliser cet objectif, et déjà on est dans le concret, le Congrès envisage les méthodes suivantes. 1. L'encouragement de la colonisation en Palestine par des fermiers, des paysans et des artisans. L'organisation de l'ensemble du judaïsme encore constitué, approprié sur le plan local et général, en accord avec les lois des pays respectifs, la consolidation du sentiment national et de la conscience nationale, la mise en œuvre des moyens nécessaires pour obtenir le consentement des gouvernements susceptibles de favoriser la réalisation des buts du sionisme. Donc on voit ici le programme d'action, avoir les moyens politiques, financiers, organisationnels, structurels, renforcer le sentiment national. À aucun moment on ne définit évidemment ce qu'est la nation, ce qu'est le peuple juif. On ne se pose pas toutes ces questions-là, puisque dans l'esprit de Herzl, ça n'était pas le but, il faut créer l'État d'abord. Alors évidemment, ces questions, elles réapparaissent après.
Après. Justement, il me semble qu'après la création de l'État d'Israël, cette définition du sionisme a évolué forcément, puisque l'État a été créé.
Oui.
Quelle était cette nouvelle définition, en fait ?
Alors, il y a eu de nombreux débats dans les premières années de l'État d'Israël, justement, pour définir, je dirais, la nature de l'État juif. Qu'est-ce que ça veut dire, l'État juif ? Et donc, quand on demande qu'est-ce que ça veut dire, l'État juif, on dit qu'est-ce que ça veut dire, être juif ?
Bien sûr.
Et donc là, on est vraiment dans un questionnement, je dirais, d'identité juive, mais de définition de ce que peut être le judaïsme, un juif, et on tombe évidemment dans un débat avec... un débat aussi religieux, qui peut être à la fois assez violent, et on se trouvait dans des situations assez compliquées, puisqu'il y a eu dans les années 50, par exemple, quelqu'un qui a demandé la nationalité juive, puisque l'idée c'était d'accorder la nationalité juive aux juifs reconnus comme juifs, donc il fallait bien définir qui était juif, et donc on a fini par adopter la définition religieuse. Cette définition religieuse est... On s'est trouvé une fois face à une contradiction, puisqu'il y avait un père protestant qui était d'origine juive. Sa mère était juive, mais lui était protestant. Donc, on a été obligé de définir de façon plus précise, sur le plan juridique, ce qu'était le judaïsme. Et puis ensuite, il a fallu définir aussi culturellement ce qu'était l'État juif. Et donc, le mouvement sioniste, en 1968, a adopté un nouveau programme. qui s'appelle le programme de Jérusalem, 1968, et qui est, disons, un programme de Baal amélioré ou modifié en fonction justement des développements d'histoire et de l'existence de l'État d'Israël. Ce programme dit la chose suivante, l'unité du peuple juif et la focalisation, ce sont les buts du sionisme, de la vie juive en Israël, le rassemblement du peuple juif dans sa patrie historique Eretz Israël par l'alia de tous les pays, la consolidation de l'État d'Israël basée sur la vision prophétique de justice et de paix, la conservation de l'identité du peuple juif grâce à l'encouragement de l'éducation juive et hébraïque, ainsi que la mise en valeur du patrimoine spirituel et culturel juif, et enfin la lutte pour les droits des juifs, où qu'ils se trouvent. Il faut se rappeler qu'en 1968, nous sommes en plein dans la lutte pour la libération des juifs d'URSS, qui sont retenus contre leur gré en Union soviétique. Et donc c'est pour ça qu'on parle ici de lutte pour les, à la fois pour l'Aliya, mais aussi pour les droits des juifs qui sont encore persécutés. Donc le mouvement sioniste est devenu, je dirais après, un mouvement plus militant, encouragement de l'éducation juive, renforcement d'identité juive, renforcement de l'Aliya ou encouragement de l'Aliya, et puis évidemment unité du peuple juif. Alors ça, ça fait partie de des choses qui sont de l'ordre de la formule, du déclaratif, mais qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens. On se focalise sur la vie juive en Israël. Qu'est-ce que la vie juive en Israël, Stéphanie ?
Qu'est-ce que la vie juive en Israël, Michael ?
Ben, c'est une question que je me pose depuis pas mal d'années et qui n'a pas été au départ définie par le sionisme. Au fond, le mouvement sioniste a été un mouvement ouvert qui a dit les juifs vivront en juif en Israël, mais avant tout, qu'est-ce que ça veut dire être juif en Israël ? La première chose, c'était de parler la langue d'Israël. Donc le premier pas pour vivre en juif en Israël, c'est savoir l'hébreu. C'est parler l'hébreu, c'est penser en hébreu, c'est rêver en hébreu. C'était ça le point de départ. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui envisager de sionisme autrement que par l'apprentissage de l'hébreu comme fondement, je dirais, du sionisme. Le fondement même du sionisme, c'est savoir l'hébreu. Après, si on sait l'hébreu, on peut choisir si on veut être plus religieux, moins religieux, si on veut vivre son judaïsme dans un kibboutz, dans une ville, en lisant Bialik ou en faisant des études de Torah ou de Talmud. Mais si on n'a pas cette maîtrise de l'hébreu, on ne peut pas vivre en juif sur la terre d'Israël.
Nous allons nous quitter, merci beaucoup. C'était Michael Barzvi et Stéphanie Soufir. À très bientôt.